C'est deux choses différentes, ce qui est antérieur et postérieur. Ça, c'est très très beau pour comprendre ce que c'est qu'une analyse théologique. Oui. Et de comprendre que l'analyse théologique respecte le dire d'un docteur, d'un père de l'Église, qui n'a pas le même regard, la même exigence de précision. Je crois que ça, c'est très très important. Au point de vue pratique, vous voyez ? C'est très très important au point de vue pratique. Parce qu'il ne faut pas que la théologie scientifique vous mette dans un état d'irascibilité vis-à-vis de tous ceux qui parlent pas tout à fait juste. Même quand le Saint-Père parle dans les encycliques, le Saint-Père ne parle pas au niveau de la théologie scientifique. Autrement, il viendrait comme l'abbé de Nantes. Oui. Alors à ce moment-là, c'est effrayant. Alors on corrige les encycliques du pape dans une lumière soi-disant de théologie scientifique, qui n'est plus de la théologie scientifique, qui est la logique. C'est très important, ça. C'est très très important de saisir. C'est parce que c'est par là que vous saisissez ce que c'est que la théologie scientifique et comment la théologie scientifique ne doit pas mettre en nous des exigences de parler toujours au niveau scientifique. On ne vit pas au niveau de la théologie scientifique, grâce à Dieu. On vit à un autre niveau, mais la théologie scientifique existe. C'est nécessaire pour faire des gammes. Il faut faire des gammes. C'est ça, c'est la théologie scientifique. Alors on doit avoir cette précision-là, on doit la comprendre. Mais on ne vit pas à ce niveau-là. Vous n'allez pas faire oraison là-dessus. Non, 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 c'est très important de saisir ces choses-là. Vous vivez à un autre niveau. La vie théologale n'est pas au niveau des conclusions du théologien scientifique. La vie théologale regarde le mystère tel qu'il est. Oui, et saint Augustin, lui, c'est un apôtre qui parle. Bon, alors, c'est sûr, on va faire ces distinctions-là, mais c'est intéressant. Alors, c'est important, vous voyez, parce que ça montre que saint Thomas fait lui-même cette distinction entre la manière dont on reçoit un père de l'Église et la manière dont on fait une théologie scientifique. Article 4. Le Fils de Dieu devait-il assumer la nature humaine abstraite de tous les individus ? La nature humaine en soi. Damasène écrit « La nature que le Verbe incarné a assumée, ce n'est pas celle que nous contemplons dans un acte de pure intellection. Une telle incarnation, en effet, ne serait qu'erreur en fiction. » Or, la nature humaine, en tant qu'elle est séparée ou abstraite des individus, est objet de pensée et d'intellection pure. Prota singularibus separata vel abstracta in nuda contemplatione cogitatur. In nuda, cette contemplation toute nue. Vous avez une abstraction de tous les individus pour essayer de saisir ce que c'est que la nature humaine abstraite. Alors, est objet de pensée et d'intellection pure. L'expression latine est beaucoup plus belle hein, quand on dit « in nuda contemplatione cogitatur ». C'est tellement joli, c'est difficile à rendre en français. « In nuda contemplatione cogitatur ». On contemple, on cogite dans la nudité de la contemplation, de la connaissance abstraite. Car, comme le dit encore Damasène, elle ne subsiste pas par elle-même. Le Fils de Dieu n'a donc pas assumé la nature humaine en tant qu'elle est séparée de ses singuliers. Autrement dit, le mystère de l'incarnation ne se réalise pas au niveau platonicien. C'est ça que ça veut dire. Le niveau platonicien, c'est in nuda contemplatione. Vous voulez saisir l'homme en soi. L'homme en soi n'existe pas, sauf dans la pensée de Platon. Et pas dans la pensée du Verbe de Dieu, vous voyez. Conclusion. La nature de l'homme, ou de toute autre réalité sensible, en dehors de l'être qu'elle possède dans les singuliers, peut être envisagée d'une double manière. Ça, c'est tout à fait un point de vue critique. Hein. C'est le point de vue critique ici qui est assumé en point de vue théologique. on peut en premier lieu la considérer comme ayant l'être par elle-même, en dehors de la matière, ainsi que le prétendaient les platoniciens. Ou bien, on peut encore la considérer comme existant dans l'intelligence, soit divine, soit humaine. C'est très très joli, hein, le jugement de saint Thomas sur les platoniciens et sur les néo-platoniciens. À vrai dire, une telle nature... Vous voyez, c'est intéressant pour montrer que saint Thomas n'est pas néo-platonicien, vous voyez. Soit dit en passant, par rapport à ceux qui veulent à tout prix comprendre que saint Thomas est platonicien. C'est jamais ces articles-là qu'il cite, du reste. Hein. À vrai dire, une telle nature ne peut subsister par elle-même, ainsi que le prouve le philosophe en ses métaphysiques, donc au moment où il critique Platon. Car la matière appartient à la nature spécifique des réalités sensibles et rentre dans leur définition. Les chairs, par exemple, les os font partie de la définition de l'homme. Il ne peut donc se faire que la nature humaine existe en dehors de la nature sensible. Que si pourtant la nature humaine subsistait de cette manière, il ne conviendrait pas qu'elle fût assumée par le Verbe de Dieu. D'abord, parce que l'assomption se termine à la personne. Or, il est contraire à la nature d'une forme universelle de se trouver dans une personne. Personnifiée, en effet, elle serait individuée. Hein? C'est... Ok. Elle implique nécessairement l'individuation, si elle est personnifiée. Ensuite, parce que à une nature commune, on ne peut attribuer que des opérations communes et universelles. Or, de telles opérations ne peuvent pas être principes de mérite ou de démérite. Et cependant, c'est dans le but de mériter pour nous que le Fils de Dieu a assumé la nature humaine. Vous voyez bien, là encore, motif de l'incarnation. Ça, très nettement, le traité de saint Thomas, c'est toujours orienté de cette manière-là. On l'a dit précédemment, on peut envisager, c'est possible, mais saint Thomas, lui, l'envisage tel que, de fait, le mystère de l'incarnation s'est réalisé. Il s'est réalisé pour que Jésus nous sauve. Donc, pour qu'il mérite pour nous, puisqu'il nous a sauvés en méritant pour nous. Ça fait partie du mystère de la rédemption. Enfin, parce qu'une telle nature n'est pas objet de connaissance sensible, mais intelligible. Or, le Fils de Dieu a pris la nature humaine pour se rendre visible aux hommes. Selon cette parole de Baruch, après ces choses, il est apparu sur la terre et il a vécu avec les hommes. De même, la nature humaine, en tant qu'elle se trouve dans l'intelligence divine, ne pouvait être assumée par le Fils de Dieu. Ça, c'est très important. Hein. Sous ce rapport, en effet, elle ne diffère pas de la nature divine. Et par suite, c'est de toute éternité que la nature humaine aurait été unie au Fils de Dieu. Ça, c'est la conception de certains. Comme si l'homme était éternellement en Dieu et que le Fils de l'homme aurait été éternellement incarné. Enfin, il ne convient pas davantage de dire que le Fils de Dieu a assumé la nature humaine en tant qu'elle se trouve dans l'intelligence humaine. Cela signifierait simplement, en effet, que l'assomption de la nature humaine est objet de connaissance intellectuelle. Or, si la nature n'était pas réellement assumée, une telle connaissance serait fausse et l'assomption de la nature humaine ne serait pas autre chose, comme le dit Damascène, qu'une incarnation fictive. Si l'incarnation est réelle, elle assume une nature humaine qui est réelle. et non pas qui est simplement pensée par l'homme. Parce que celle-là est abstraite. Elle existe selon un mode particulier, selon le mode universel. Donc elle existe d'une façon qui n'est pas existante. Elle n'existe que intentionnellement dans l'intelligence humaine. De même, si c'est la nature humaine en tant que pensée par Dieu, alors à ce moment-là, ce n'est plus le mystère de l'incarnation, puisque cette nature humaine pensée par Dieu, c'est Dieu. Donc, l'assomption ne peut pas y avoir assomption. Donc, la seule possibilité, c'est que la nature humaine soit assumée dans son individualité, mais elle ne peut pas être assumée d'une façon abstraite. Donc là, ça n'a aucune difficulté, simplement pour évacuer cette espèce d'imagination qui peut naître chez certains. Article 5, le Fils de Dieu devait-il assumer la nature humaine dans tous ses individus? Ça, c'est le pan, l'incarnation vue dans cette manière-là, panchristique. Tout homme, du fait même qu'il est homme, est assumé par Dieu, puisque le Fils bien-aimé a assumé la nature humaine. Or, vous êtes la nature humaine, donc vous êtes assumé. C'est commode à voir. Damasène écrit, le Fils de Dieu n'a pas pris la nature humaine dans son universalité spécifique. Il ne l'a pas davantage assumée dans tous ses supports. Alors, il ne convenait pas, pour diverses raisons, que la nature humaine fût assumée par le Verbe de Dieu dans tous ses supports. D'abord, cela eût enlevé à la nature humaine la pluralité de suppos qui lui est naturel. C'est très amusant comme réponse. Hein, qui lui est comme naturel. Il n'y a pas en effet dans la nature assumée d'autres suppos que la personne qui assume. Si donc la nature humaine entière était assumée, il n'y aurait plus qu'un seul suppos. En effet, à savoir la personne qui assume. C'est sûr, il n'y aurait qu'une seule personne. Il y aurait de multiples individus, mais il n'y aurait qu'une seule personne. Imaginez, ça, c'est des jumeaux extraordinaires. Hein. C'est une imagination, évidemment, assez particulière. Mais c'est une imagination qui va dans le sens, vous voyez, du panthéisme, un panchristisme. Hein. C'est un peu cette imagination-là, ça peut exister. Les souterrains qui sont en nous. En second lieu, cela dérogerait à la dignité du Fils de Dieu incarné, qui, selon sa nature humaine, est le premier-né parmi beaucoup de frères, comme il est, selon sa nature divine, le premier-né de toute créature, toute chose ayant été fondée en lui. Tous les hommes, en effet, posséderait la même dignité. Enfin, il convient que si une seule personne divine s'incarne, une seule nature humaine aussi soit assumée, afin que de part et d'autre, l'unité soit sauvegardée. Mais ce sont des raisons de convenance. Hein. Ce ne serait pas convenable au Fils de Dieu, et ce ne serait pas convenable par rapport à ce que représente la nature humaine comme telle. Donc c'est une simple hypothèse qui n'est pas convenable. Oui.
C'est vrai par rapport aussi à la théologie mystique, quand on dit qu'on est une seule personne mystique.
Oui, 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 vous pouvez dire ça. Oui, oui, vous pouvez dire ça. C'est aussi pour préciser la différence entre l'attitude du corps mystique et l'unité quasi ou non personnelle, comme ça. Quasi una persona. Le corps mystique est quasi una persona dans le Christ. Alors comprenons bien. Quasi una persona, je ne comprends plus côté de l'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc du côté de la vie. Et ça ne peut pas se comprendre du côté de l'être. Oui, tout à fait juste. Mais du côté de la vie, c'est évident, il y a une unité. Parce qu'il y a la même finalité. Alors si on ne fait pas la distinction entre vie et être, quand on voit, du reste d'une façon générale, c'est un panthéisme. Le panthéisme ne peut être évité que dans la mesure où on fait la distinction entre l'être et la vie. Si on ne fait pas la distinction entre elle et la vie, on tombe dans le panthéisme, aussi bien du côté de la création que du côté panchristique. Vous voyez bien ? Pas de questions ? On peut avancer ? Oui ?
Comment ça se fait, peut-il dire que le Christ est le premier-né au niveau de la nature parmi beaucoup de frères ?
Oui, oui.
Parce que c'est à dire. Donc, le premier-né par rapport à la
création. Le premier-né parmi beaucoup de frères. Oui, parce qu'au
niveau de la nature humaine.
Au niveau de la nature humaine, la nature humaine dans le Christ devient modèle de toutes les autres natures existantes. Donc il est le premier-né, primogénitus, parmi vos frères, qui ont la même nature. Nous sommes frères du Christ parce que nous avons la même nature que lui. Alors nous sommes frères. Mais dans la nature humaine. C'est pas ça que vous pensez.
Au point de vue nature humaine, qu'est-ce que le Christ nous apporte de plus que
comme
la nature humaine de d'alors, oui, c'est ça.
Mais il n'apporte rien de plus. Il vous apporte. Oui, mais il est premier parce que sa nature humaine a une noblesse plus grande que la vôtre. Et donc il est premier. Et vous apportez rien. Au vrai de notre nature.
Non, parce que dans l'évangile, justement, on fait remonter la nature humaine de Christ jusqu'à Adam, qui lui est le premier.
Oui, mais faisons attention. Adam est premier sur l'ordre génétique et Jésus est premier sur l'ordre nature.
Aussi génétique. Selon la recréation.
Ah non, par point de vue de la nature. Adam reste le premier sur l'ordre génétique.
De nature, comme la nature humaine rachetée, recréée, elle vient vraiment première dans le.
Dans l'ordre de perfection, pas dans l'ordre génétique.
Mais parmi ses frères, comme enfant de Dieu, il est le premier.
On parle de la nature humaine. On parle de la nature humaine.
Oui, mais tu veux dire en état de justice originelle ou en état de.
Non, c'était Roger. Au point de vue génétique, Adam demeure. Je regrette. Ah, c'est évident. Autrement, vous ne seriez pas né dans le péché originel.
Je crois que la phrase de l'Écriture ne concerne pas la nature humaine comme telle. Ah,
mais non, mais c'est la question qu'il pose. Moi, je réponds à la question qu'il pose en disant que la question posée, et elle se pose, cette question, c'est évident qu'elle se pose. Le Christ, donc Adam, reste le premier dans l'ordre génétique. Et dans le premier, dans deux natures de perfection, c'est le Christ, le nouvel Adam. Si vous restez ça, vous dites le nouvel Adam. Il est le premier dans l'ordre de la perfection, au niveau de la nature humaine. La nature humaine dans le Christ a une perfection telle qu'il est premier. Oui. Tandis qu'au contraire, Adam demeure toujours le premier dans l'ordre génétique.
Et puis dans l'ordre de la récréation, est-ce que le Christ n'est pas le premier-né dans la mesure où il est le premier ressuscité, donc pleinement recréé?
Oui.
Dans sa nature humaine.
Oui, c'est sûr, mais c'est le premier dans l'ordre toujours de la perfection, pas dans l'ordre génétique.
Même génétique, c'est d'accord. Dans la récréation.
Ça ne concerne pas la nature humaine comme
ça. C'est plus la nature humaine. C'est plus la nature humaine, c'est votre nature glorifiée. C'est une chose. Vous êtes glorifié pas par votre nature humaine, vous êtes glorifié par la grâce. Alors, c'est la grâce.
Il y a plus d'enjeu.
Le Christ est premier dans la grâce, c'est bien évident. Il est premier dans la grâce, mais on parle de la nature humaine. Hein, c'est bien ça que vous voyez. C'est la nature humaine, et la nature humaine, il faut considérer que Adam reste le premier dans l'ordre génétique, c'est bien évident, autrement on ne serait pas né dans le péché originel. On est lié à Adam, dans l'ordre génétique.
Oui. L'ordre de la grâce, il n'est plus dans l'ordre génétique, puisque Marie, elle peut profiter avant de
faire... L'ordre de la grâce est au-delà, puisque la grâce est autre chose.
Donc ça ne marche pas, de dire que le Christ est premier dans l'ordre de la grâce.
Non. Il est premier dans l'ordre de la grâce, c'est bien évident. Il est premier dans la grâce, c'est bien évident. Mais comme on parle de la nature humaine, je peux la regarder de deux manières. Dans l'ordre génétique, Adam est premier. Dans l'ordre de perfection, le Christ est premier. Et il passe avant Adam. Et il est le premier, le nouvel Adam.
Oui. Quand on dit qu'il est premier dans la gloire, c'est aussi dans l'ordre de perfection.
Parce que il y a la perfection en faisant appel à la grâce.
Et génétique aussi.
Oui, en faisant appel à la grâce.
Mais il n'y a pas de génétique dans l'éternité.
Il y a une économie divine quand même. Il n'y a pas une surnature.
Dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre surnaturel, vous voyez. L'ordre génétique et l'ordre de perfection ça implique le point de vue du temps. Moi, il n'est plus génétique. Bon, si je parle alors dans l'ordre de la grâce, comme thème, Jésus est premier parce qu'il est fils unique du Père. Alors, il est premier dans l'ordre de la grâce. Il est premier dans l'ordre de la résurrection. Il est premier ressuscité d'une multitude de frères. Vous voyez ? Ça, c'est sûr. Alors là, c'est l'ordre de la grâce. Et dans l'ordre de la grâce, il est premier tout court. Alors, je peux parler aussi d'un ordre génétique en ce sens que je veux dire que nous sommes sanctifiés dans le temps progressivement, mais l'ordre temporel est surtout du côté de la nature humaine. Ça, c'est le point de vue de venir. Pas d'autres questions ? C'est important de bien préciser, il suffit tout simplement de bien comprendre ce que représentent ces deux aspects, et ça, toute la tradition. Jésus, nouvel Adam, et la référence avec l'autre Adam. Et l'autre Adam demeure, ça c'est sûr. Convenait-il au Fils de Dieu d'assumer une nature humaine tirée de la race d'Adam ? Nous y sommes. Dans l'évangile de Saint Luc, la généalogie du Seigneur remonte jusqu'à Adam. Très important. Comme le dit saint Augustin, Dieu pouvait prendre un homme ailleurs que dans la race d'Adam, qui avait enchaîné le genre humain à son péché. Mais il jugea qu'il valait mieux prendre dans une race de vaincus un homme qui deviendrait vainqueur de l'ennemi du genre humain. C'est une merveilleuse vision de saint Augustin. Et cela pour trois raisons. La première, c'est qu'il semble appartenir à la justice que celui qui a péché satisfasse. Donc on retrouve les raisons de la rédemption et de l'incarnation, hein, liées l'une à l'autre. Il convenait que ce fût de la nature corrompue par le péché que fût tiré ce qui servirait à satisfaire pour toute la nature. La seconde, c'est qu'il est plus digne de l'homme que le vainqueur du diable sorte de la race qui a été vaincue par le diable. On a déjà pris ces raisons-là dans les motifs de l'incarnation. La troisième, enfin, c'est que la puissance de Dieu se trouve par là davantage manifestée, puisque d'une nature corrompue et infirme, Dieu tire quelque chose pour l'élever à une telle perfection et à une si haute dignité. C'est bien la nature humaine tirée d'Adam, mais sans la faute. Et si vous prenez tout de suite la réponse, la première objection, il semble qu'il ne convenait pas au Fils de Dieu d'assumer une nature humaine de la race d'Adam. L'apôtre écrit en effet dans l'Épître aux Hébreux, « Il convenait que notre pontife fût séparé des pécheurs. » Mais il eût été davantage séparé des pécheurs s'il n'avait pas pris la nature humaine de la race d'Adam pécheur. C'est bien évident. Hein. Ça aurait été plus pur. Le purisme poussé jusqu'au bout. Vous voyez, ça, c'est très cru. Hein. Luther par derrière. C'est très intéressant, ça. Si je ne fais pas la distinction entre nature et état de nature, je ne peux pas comprendre le raisonnement de saint Thomas. Et archi dans l'objection. C'est vrai, si je suis dans la perspective de Luther, la nature est corrompue radicalement, donc la nature du Christ ne peut pas être tirée d'Adam. Et ça, c'est la première objection. Oui. Alors, la réponse. Le Christ devait être séparé des pécheurs sous le rapport de la faute qu'il venait détruire, non sous le rapport de la nature qu'il venait sauver, et qui devait le rendre en tout semblable à ses frères, comme il est écrit dans la même épître aux Hébreux. Le merveilleux était précisément qu'une nature tirée ainsi de cette race de péché garda cependant une telle pureté. Mais ça, c'est très très beau pour montrer l'erreur de la confusion entre l'état de nature et la nature. Si vous ne faites pas la distinction entre état de nature et nature, vous ne pouvez pas comprendre que la nature humaine que Jésus a assumée, c'est bien la nature qui vient d'Adam. Alors, vous voyez la réponse à la seconde objection. Comme nous venons de le dire, il fallait que le Christ fût séparé des pécheurs quant à la faute. Or, Adam était coupable, et le Christ l'a délivré de son péché, selon la parole du livre de la sagesse. Celui qui venait purifier les autres ne devait pas avoir besoin d'être purifié lui-même. Dans tout système de mouvement, en effet, le premier moteur est immobile par rapport à ce mouvement même. C'est très joli, le premier immobile. Il ne convenait donc pas que le Fils de Dieu assumât la nature humaine dans Adam lui-même. Alors, terminons, si vous voulez, par la troisième objection, parce que du reste, il n'y a pas grande difficulté. Les gentils furent du plus grand pécheur, donc les gentils furent de plus grands pécheurs que les juifs. Si l'on croit la glose interprétant cette parole de l'Épître aux Galates, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les gentils. Si donc le Fils de Dieu voulait assumer la nature humaine tirée d'une race de pécheurs, il aurait dû plutôt la prendre chez les gentils que dans la race d'Abraham qui fut juste. C'est très, très important ça. Puisque le Christ devait être tout à fait séparé des péchés quant à la faute et atteindre le degré le plus élevé de pureté, il convenait qu'à partir du premier homme pécheur, l'on parvint au Christ, en passant par quelques justes, en qui brilleraient les marques de sainteté future. C'est pourquoi, dans le peuple duquel devait naître le Christ, Dieu institua certains signes de sainteté, à commencer par Abraham, qui le premier reçut la promesse du Christ à venir et fut circoncis en témoignage d'une alliance durable, comme il est écrit au livre de la Genèse. Ça, c'est tout à fait une convenance, hein, parce que c'est second. On voit très bien, c'est pas nécessaire. C'est la reprise de la nature humaine dans toute sa pureté, en fonction même du mystère de l'union hypostatique, qui fait que cette nature humaine, qui est la même que la nôtre, nous, elle est née dans le péché. Dans le Christ, elle est toute pure parce qu'elle est unie à la personne divine, mais c'est la même nature. Et donc, il y a une communion de la nature jusque dans le point de vue, j'allais dire, de l'union avec la souche, la race, si j'ose dire. Il n'y a que là où il y a une race. Et ça, c'est très beau pour comprendre ce que c'est que la nature humaine. C'est le propre de la nature humaine d'être unie à un premier. Le propre de la nature humaine implique la procréation. Il faut donc que le Christ entre, pour entrer pleinement dans la nature humaine, entre lui-même aussi dans ce mystère de procréation. Mais il faut que cette procréation implique une pureté absolue, et c'est, je crois, tout le mystère de la maternité divine de Marie et le mystère de Marie Vierge. Vous voyez, qui est impliqué dedans et que nous voyons ici. La nature humaine implique cela. Il y a une continuité dans la nature humaine qui fait partie de la nature humaine. La nature humaine n'est pas, si vous voulez, du discontinu. La nature humaine implique une continuité. Puisque Dieu a voulu qu'il y ait ce mystère de la procréation. Et donc, Jésus, pour assumer pleinement la nature humaine, doit entrer dans cette nature humaine impliquant la procréation. Et donc, le lien avec Adam. Et que ceci fait partie de la nature humaine. Donc, vous voyez, c'est intéressant au point de vue théologique, parce que, je vous avais dit au début, c'est le regard du théologien dans la lumière de l'incarnation, sur la nature humaine. Et que ce regard du théologien sur la nature humaine, dans le regard de l'incarnation, nous fait comprendre que la nature humaine prise concrètement implique ce lien de la procréation que Dieu a voulu respecter pleinement et totalement pour que Jésus soit pleinement l'un de nous, notre frère. Parce que s'il avait créé de toutes pièces une nouvelle nature humaine, sans passer par le point de vue de la procréation, ce qui aurait pu être descendu du ciel, ça aurait pu être comme ça, eh bien, il ne serait pas pleinement notre frère. Il le serait formellement, mais pas par l'aspect, j'allais dire, génétique, par l'aspect du genre, par l'aspect de la source. Et donc, il ne serait pas pleinement notre race. Il serait notre race par le point de vue de la nature humaine qui implique le point de vue de la matière et de la forme. Encore combien de minutes? 5 minutes, très bien, on va commencer. Hein. Pas d'autres questions, parce que ce n'est pas la peine, cette question-là est simple, elle est facile, pas de difficulté. Question simple, l'union envisagée par rapport aux parties de la nature humaine. Il nous faut maintenant étudier l'assomption des parties de la nature humaine. À ce sujet, 4 questions se posent. Le Fils de Dieu devait-il assumer un corps véritable? Donc, c'est pour entrer dans le réalisme du mystère de l'incarnation par rapport à la nature humaine. Le Fils de l'homme devait-il assumer un corps véritable? Devait-il assumer un corps terrestre, c'est-à-dire un corps fait de chair et de sang? A-t-il assumé l'âme? Devait-il assumer l'intelligence? Ah, l'âme et l'intelligence, vous voyez, c'est quand même très curieux, ça. Alors, ça aussi, c'est pas très difficile, c'est toujours pour mieux comprendre l'affirmation, le verbe devenu chair. Donc, le verbe devenu chair implique le mystère de l'Assomption dans tout le réalisme du corps humain. Saint Augustin écrit « Si le corps du Christ n'a été qu'une fiction, le Christ nous a trompés. Et s'il nous a trompés, il n'est pas la vérité. Or, le Christ est la vérité, donc son corps ne fut pas une fiction. » Bon raisonnement de Saint Augustin. Il reste donc évident que le Christ a assumé un corps véritable. Il est écrit dans le livre des dogmes ecclésiastiques. Ouvrage attribué à saint Augustin, dit la note. Hein. Vous voyez, parce que vous ne savez pas très bien ce livre des dogmes ecclésiastiques, hein, vous l'avez consulté. Ce n'est pas d'une manière fictive que le Fils de Dieu est né, comme s'il avait eu un corps imaginaire. Mais il est né avec un corps véritable. On ne peut assigner à cette conduite de Dieu. Oui, on peut assigner à cette conduite de Dieu un triple motif. Premièrement, se tire du concept de la nature humaine. Donc, en premier lieu, prima ex ratione naturae humanae. Alors, je vous ai déjà dit, hein, ne traduisez pas ratio par concept. Pas beaucoup. C'est pas tout à fait ça. La raison de la nature humaine, c'est la quiddité de la nature humaine. Or, la quiddité n'est pas un concept. C'est le fondement du concept. Il faut être quand même assez sensibilisé à ça, surtout dans un monde idéaliste comme le nôtre. Vous voyez ? C'est pas la même chose, le concept ou le fondement du concept. Ce que signifie le concept, c'est la ratio. Donc, c'est la signification du concept, c'est pas le concept. Je sais bien que la scolastique distingue les deux et dit concept formel, concept objectif. Mais vous voyez, c'est ça, c'est des distinctions post-occamiennes. Hein? Alors, c'est des distinctions que je crois qu'on ne doit pas faire, parce que c'est des distinctions qui ne sont pas très bonnes. Mais ça, c'est là. Le père Eris est encore un peu dans la scolastique. Hein? Alors, il fait ce point de vue du concept objectif et le concept formel. Alors, le concept objectif, c'est la ratio. Le concept formel, c'est le concept dans l'intelligence. Vous voyez ? Mais quand on dit concept, on parle toujours de ce qui est dans l'intelligence. Saint Thomas parle de ratio. Il ne dit pas concept, il ne dit pas le verbe. On peut assigner à cette conduite de Dieu une triple motif. Le premier se tire du concept, donc de la raison de la nature humaine. Il appartient en effet à celle-ci d'avoir un véritable corps Et si l'on suppose, d'après ce qui a été dit précédemment, qu'il convient au Fils de Dieu d'assumer la nature humaine, il s'ensuit qu'il a dû prendre un véritable corps. C'est évident que s'il n'y a pas de véritable corps, la pauvre nature humaine, je ne sais pas ce qu'elle est. Deuxième motif, se prend des faits accomplis dans le mystère de l'incarnation. Si le Christ, en effet, n'a eu qu'un corps imaginaire, alors sa mort n'a pas été véritable. Et tout ce que les évangélistes nous racontent à son sujet ne s'est pas passé réellement, mais seulement en apparence. Alors on est conscient dans sa foi. Il faudrait donc conclure que le salut de l'homme n'a pas été obtenu en réalité, car l'effet se proportionne à la cause. Troisième motif, enfin, peut être pris de la dignité de la personne qui assume. Elle est la vérité. Il ne convient pas que dans son œuvre, il y ait quelques fictions. D'ailleurs, le Seigneur, ça c'est la raison de saint Augustin, d'ailleurs le Seigneur a pris soin lui-même de dissiper cette erreur lorsqu'il se présente à ses disciples troublés et terrifiés qui croyaient voir un esprit et non un corps véritable. Et qu'il leur dit, touchez, constatez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez en avoir. Donc, ça, c'est facile à comprendre. L'incarnation ne serait plus vraiment l'incarnation si le corps du Christ serait fictif. La rédemption ne serait plus une véritable rédemption par la mort du Christ si le corps du Christ était fictif. Et le mystère de la manifestation qui se fait en toute vérité par le Verbe de Dieu, serait faussé à sa racine, si justement ce serait comme un cinéma. Ce serait un cinéma. Il y aurait une anticipation du cinéma. Article 2. Le Fils de Dieu devait assumer un corps terrestre fait de chair et de sang. Vous venez, ça vous pouvez le lire vous-même. Hein. On ira vite là-dessus, parce que comme... Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Si vous avez une difficulté en lisant vous-même, je vous demande de ça, parce que de temps en temps, il faut que vous faire quand même un peu travailler. Alors, lisez cette question vous-même. Je crois qu'il n'y a pas grosse difficulté. Et si jamais il y a une difficulté, vous la notez et on la discute ensemble. Hein.